France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, à l'écoute de France Culture en ce dimanche matin, Jean-Luc Gadreau avec vous jusqu'à 9h pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. C'est le pasteur James Woody qui sera avec moi ce matin pour parler de son livre « La liberté, les premiers rois d'Israël » aux éditions du Cerf. Bonjour James Woody.
Bonjour.
La dernière fois que vous êtes venu à ce micro, vous officiez à l'époque au temple de la rue Maglone à Montpellier. Mais depuis, vous êtes remonté, comme on dit, à la capitale. Alors pas loin du Parc des Princes d'ailleurs, vous, grand supporter du PSG, puisque vous êtes depuis septembre dernier pasteur de l'église réformée d'Auteuil.
Exactement. C'est un peu un retour dans ma jeunesse, puisque j'étais aussi collégien et lycéen au lycée Jean-Baptiste C, un économiste protestant s'il en est.
Ah. Donc, parisien maintenant, il y a eu aussi pas mal de livres dans votre carrière pastorale.
Y compris sur la liberté d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Alors, on va les citer. Grain de sel, Vivre la liberté, La grâce pour tous. Celui reprenant aussi vos interventions ici même sur France Culture pour le carême 2023, je crois.
Oui.
Dieu porte nos vies à l'incandescence. Et puis voici donc un nouveau livre sorti déjà depuis quelques mois, La liberté, les premiers rois d'Israël, aux éditions du Cerf. Vous le disiez, cette question de la liberté, elle a déjà été présente dans d'autres livres, elle l'est à nouveau. On peut avoir l'impression que c'est un peu comme une forme de colonne vertébrale, je dirais, dans ce que vous produisez, dans votre ministère, sans doute, dans vos engagements. Votre blog, d'ailleurs, a même pour titre « Esprit de liberté ». Alors, c'est quoi cet esprit de liberté chez James Woody ?
Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que c'est une thématique qui s'est imposée à moi, et en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'elle me venait de mes anciens. Au fond, je crois que c'est au fur et à mesure que découvrant l'histoire de ma famille pendant la Seconde Guerre mondiale, la liberté est devenue un thème que j'ai chéri, c'est-à-dire à la fois un grand-père paternel, soldat américain qui est venu libérer le vieux continent en passant par la Normandie, et puis un arrière-grand-père qui était en camp de concentration à Bleckhammer, Auschwitz III, et qui a lui-même participé à ces fameuses marches de la mort, etc. Et au fond, cette expérience de l'internement et de la libération m'ont complètement traversé et m'ont fait dire que la liberté est quelque chose sur laquelle on ne transigeait pas. Quelque chose qui nécessitait notre engagement plein et en toutes circonstances. Un impératif catégorique.
Et votre travail théologique, j'imagine, a amené de la matière à tout ça.
Oui, parce que les textes bibliques sont traversés par cette question de la thématique. On pense bien sûr au livre de l'Exode qui consiste à libérer le peuple hébreu de la servitude à laquelle il est asservi.
On en reparlera d'ailleurs parce qu'il y a des paradoxes dans cette histoire.
Oui, oui. Et puis, ce livre, La liberté, les premiers rois d'Israël, c'est finalement le fruit de ma thèse de doctorat. Et c'est intéressant parce que en étudiant les textes bibliques, y compris dans l'histoire de leur rédaction, j'ai découvert que l'histoire était finalement assez proche de la mienne. C'est-à-dire que la liberté n'est pas un thème qui a été tout le temps utilisé par les rédacteurs bibliques. Ça s'est imposé au moment de l'exil à Babylone. De même que j'ai l'impression d'avoir eu une jeunesse où la liberté n'était pas une question, et puis elle s'est imposée à moi quand j'ai mûri finalement, et elle est devenue quelque chose qui est en tête de mes priorités finalement.
Alors, on va en discuter ensemble de ce livre, de ce que vous avez travaillé là avec ces textes anciens. C'est un livre naturellement empreint de théologie, mais en plongeant dans les sources à la fois historiques, archéologiques et bibliques naturellement. Et tout ça peut parfois un peu se chagriner, on peut dire les choses ainsi.
On peut parler de tension peut-être, effectivement. Oui, ce qui est incontestable, c'est que lorsqu'on regarde les documents archéologiques, la littérature du Proche-Orient ancien, et qu'on met tout cela en face de l'histoire biblique, on se rend compte qu'il y a de gros décalages. Et ces gros décalages, en fait, peuvent soit chagriner parce qu'on se dit, mais du coup, ces textes bibliques n'ont aucune valeur, soit, et c'était tout le sens de mon travail, comprendre comment ces textes ont été écrits et découvrir que cela apporte une valeur supplémentaire, parce qu'en fait, c'est le fruit d'une expérience sur plusieurs siècles qui vient s'accumuler. Et les rédacteurs, après l'exil, corrigent les impressions, les analyses, les intuitions des rédacteurs avant l'exil, en tenant compte de tout ce qu'ils ont vécu par la chute de Jérusalem, l'exil à Babylone. Et donc, il y a ce travail de correction interne qui rend le texte infiniment plus intéressant et encore utile aujourd'hui.
Alors, je lis l'ouverture de votre introduction. Les humains ont une propension à refuser la liberté et à se soumettre au pouvoir d'un tyran. C'est le constat de la Boétie lorsqu'il rédige son essai sur la servitude volontaire en 1546. L'un des intérêts de ce texte est de mettre en évidence que la soumission à un ordre politique n'est pas nécessairement le résultat d'une prise de pouvoir par la force. Le paradoxe de la servitude volontaire réside justement dans la capacité humaine à ne plus désirer suffisamment la liberté. Il faut sauver la liberté. Avec ce paradoxe de la servitude volontaire, c'est peut-être là que se situe justement le plus grand danger.
Oui, y compris dans ma pratique pastorale, je me rends compte à quel point les gens n'en veulent pas de la liberté. Ils préfèrent le confort, ils préfèrent la sécurité, et la liberté est une sorte de variable d'ajustement. Or, ma compréhension de ce que les textes bibliques nous disent, c'est qu'il ne faut justement pas transiger sur la liberté. Je rappelle par exemple que le décalogue commence par le fait que Dieu se présente comme celui qui a libéré le peuple hébreu de la maison de servitude, et toutes les autres paroles, finalement, sont la conséquence. Comment on fait pour préserver la liberté, pour l'inscrire dans le temps? Eh bien, on suit les 10 paroles. Mais le projet est de préserver la liberté. Et donc, il y a cette servitude volontaire qui correspond à ce désir de tranquillité, de sécurité, de paix. Et on a toujours l'impression que finalement, quand on se sent menacé pour plus de sécurité, on sacrifiera la liberté. Et c'est d'ailleurs par là que j'avais commencé mon travail de thèse. J'observais les débats au Parlement après les attentats. Il y avait la loi sur la sécurité intérieure. Et j'ai vu toutes les libertés individuelles reculées par les projets de loi sur le fait qu'on allait lever le secret professionnel, sur le fait que le juge administratif allait remplacer le juge judiciaire, que les chefs de service pouvaient prendre des mesures exceptionnelles. Autant de mesures qui rognent sur la liberté.
Avec en plus le fait que l'exceptionnel devient souvent quelque chose qui dure.
Exactement. Ouais. Et c'est comme cela que commence mon étude des textes bibliques, on y reviendra peut-être, avec 1 Samuel 8. Le peuple veut un roi pour avoir de la justice, mais surtout la paix. Et Samuel leur dit, mais si vous avez un roi, il va vous prendre vos enfants, il va vous prendre ceci, cela, et vous redeviendrez comme esclave, finalement.
Qu'importe.
Et le peuple dit, non, non, on veut quand même un roi.
Ça. Alors, ce sont des vieilles histoires, mais on voit ça encore aujourd'hui. L'homme a régulièrement cette tendance à se mettre sous des dictateurs de conscience aussi, d'une certaine façon. La religion peut être parfois un peu vue de la sorte.
Alors, dans la religion, on peut effectivement désirer s'en remettre à quelqu'un, un directeur de conscience. Bien souvent, des paroissiens me disent « Mais en tant que protestant, qu'est-ce que je dois penser de ça? Qu'est-ce que je dois croire de ça ?» Et alors là, je résiste, parce que je ne suis pas là pour dire ce qu'ils doivent penser ou croire. Mais les aider à y réfléchir et trouver leur propre jugement. Je constate aussi, en France actuellement, beaucoup de désordre dans la société qui conduit beaucoup de personnes à désirer un pouvoir fort, un pouvoir capable d'imposer l'ordre. Et c'est extrêmement effrayant. Les textes bibliques nous alertent contre cette tendance naturelle à vouloir finalement s'en remettre à quelqu'un qui détient le pouvoir pour assurer l'ordre et donc la tranquillité.
Avec toujours la peur derrière comme une forme de moteur à cette manière d'attendre un sauveur, d'attendre un protecteur.
La peur, mais aussi la paresse et la lâcheté. Je me souviens de ce qu'écrivait le théologien Karl Barth quand il a vu la montée du nazisme en Allemagne. Il disait finalement, il y a moins à craindre de la violence des méchants que de la lâcheté des justes. Et ça rejoint ce que dit la Boétie. Au fond, un pouvoir s'exerce rarement en s'imposant. C'est parce qu'on le laisse arriver que le pouvoir s'installe.
Alors, retour sur un texte que vous évoquiez dans l'introduction, d'ailleurs, là encore, dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, les versets 1 à 3, qui nous sont lus par Emmanuel ARM. C'est notre rendez-vous avec la parole.
Là, dans le désert, les Israélites se remirent à protester contre Moïse et Aaron. Ils disaient « Si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte, quand nous nous réunissions autour des marmites de viande et que nous avions assez à manger, mais vous nous avez conduits dans ce désert pour nous y laisser tous mourir de faim. »
Encore une histoire de nourriture, les marmites de viande d'Égypte qui manquent et on oublie la liberté finalement. On préférerait retourner à l'état d'avant.
Oui, La Fontaine n'a rien inventé avec la fable du loup et du chien. Le chien préfère avoir la marque du collier sur le cou, donc la trace de la servitude, mais la panse pleine, plutôt que d'être famélique comme le loup, mais d'être libre. Eh bien, moi, pour ma part, je considère qu'être fidèle à l'Évangile, c'est préférer la position du loup et de ne jamais céder aux sirènes qui disent « Eh bien, fiez-vous à nous, passez sous notre coupe et vous aurez la panse pleine ».
J'évoquais plus ou moins discrètement en début d'émission votre intérêt pour le PSG, mais vous avez une autre grande passion, ce sont les Stones, au point d'avoir écrit un jour un article sur votre blog, les Rolling Stones, un modèle de christianisme. J'invite les auditeurs à aller fouiller sur Internet. Je ne vous questionnerai pas sur le sujet pour ne pas empiéter sur notre discussion autour de votre livre, mais tout de même, avec ce thème de la liberté, quelques mesures indispensables de I'm Free. C'est juste un petit clin d'œil, I'm Free, je suis libre, un titre des Rolling Stones, écrit par Mick Jagger et Keith Richards, sorti pour la première fois sur l'album Out of Our Heads, en 1965 tout de même. Ça vous parle, James Woody, j'imagine?
Eh oui, bien sûr, je me souviens d'ailleurs, puisqu'on a rappelé que j'étais pasteur à Auteuil, que ma première prédication à Auteuil, il y a quelques années maintenant, c'était sur les Stones et les Beatles à partir du livre d'Esther, et je disais, il faut être comme les Stones, qui est un groupe de scène et pas un groupe de studio. Être chrétien, c'est être contact dans la mêlée, etc. Et cette liberté des Stones, encore visible aujourd'hui, elle m'inspire aussi parfois, c'est vrai.
Ah oui, et ça se voit juste en vous regardant et vous écoutant. Les auditeurs n'ont pas l'image, mais voilà, ça se voit aussi. Revenons à la liberté, les premiers rois d'Israël. Vous proposez d'étudier 4 sections bibliques dans le détail, des textes qui sont pour vous les points charnières de l'histoire des premiers rois d'Israël. Peut-être quelques mots sur ces 4 moments.
Alors, il y a tout d'abord le début de la royauté, donc j'ai évoqué 1 Samuel 8 avec l'intronisation de Saül, donc du chapitre 8 au chapitre 12 du premier livre de Samuel. Ensuite, il y a la transition entre Saül et David, et moi je l'observe dans 1 Samuel 17, c'est l'épisode de David et Goliath. C'est le moment où le roi Saül est complètement transparent, il est infichu de pouvoir protéger le peuple. En revanche, le jeune berger David va prendre l'ascendant et va pouvoir délivrer, précisément, c'est le terme, Israël de la menace philistine. Ensuite, l'autre transition, c'est entre David et Salomon. Et là, j'étudie un personnage qui fait vraiment la charnière, c'est le personnage Shimei, qui est la figure de l'opposant.
Et puis, vous en aviez parlé dans le carême.
Exactement.
On avait fait une émission autour de cela.
Et au fond, c'est intéressant parce que Shimei permet de mettre en évidence le contraste qu'il y a entre l'attitude de David vis-à-vis de l'opposition et celle de Salomon. David va tenir compte de l'opposition, contrairement à son bras droit qui dit « Mais laisse-moi lui couper la tête, on va régler le problème ». Et David dit « Qui sait s'il ne parle pas au nom de Dieu ?» laisse-le aller. Et puis Salomon, l'une de ses premières mesures, ben, ça va être de faire assassiner l'opposant qui pourrait être un rival en plus. Bon. Et puis la quatrième section, c'est à la mort de Salomon, le schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, entre Roboam et Jéroboam. Et au fond, ces articulations permettent de mettre en évidence le travail de contraste que les rédacteurs ont essayé d'établir pour justement souligner le rapport que chacun entretient avec la liberté. Et ça, c'est un travail de contraste qui s'est fait après l'exil, quand le peuple, en fait, a été dépossédé de tout et s'est rendu compte de la valeur de la liberté.
Alors, moi, je voulais vous entraîner sur cette partie, justement, qui est très intéressante. Alors, je vous lis un extrait. La première étape de la rédaction, qui date de l'époque du règne de Josias, porte un regard positif sur la royauté. Elle n'intègre pas la liberté dans sa vision du champ politique. La deuxième étape de la rédaction, après l'exil, donc, repère dans la royauté les causes de la défaite et de la captivité. Le regard sur la royauté devient négatif et la liberté devient un élément structurant de la pensée du rédacteur. Ainsi, le motif de la liberté intervient tardivement quand l'expérience de la perte de souveraineté et la captivité ont conduit à une lecture rétrospective de l'histoire. En gros, pour le dire simplement, c'est quand ça ne va plus du tout que l'on regarde dans le rétroviseur et que l'on juge que ça n'a pas fonctionné.
Exactement. Les promesses de la royauté, qui étaient d'une part la justice sociale et d'autre part la paix, n'ont pas été honorées. Et donc, cette relecture des textes écrits à l'époque de Josias permet de penser à nouveau frais le politique pour instituer la liberté. Et quand on regarde les différentes couches de la rédaction, on se rend compte que finalement, le projet de Josias, c'était le tout Israël, c'est-à-dire un royaume qui va du sud jusqu'au nord, de Dan jusqu'à Beersheba. Et donc, il y a la rédaction d'une histoire qui va justifier que Josias, finalement, se lève avec un projet politique qui va contre les empires du moment. Et donc, c'est vraiment le David contre Goliath. C'est aussi le petit peuple contre l'empire égyptien. Et puis, on se rend compte que cette prétention était assez folle et que le politique ne devrait pas se penser en termes d'hégémonie, mais en termes de responsabilité partagée. Et le travail après l'exil, notamment dans le livre du Deutéronome, entre les chapitres 16 et 18, ça va être de poser les bases d'une société qui est étrangement moderne, étrangement démocrate, je trouve. On pourra y revenir si vous le souhaitez.
Alors, vous développez donc toute cette partie pour aller après sur une analyse, une réflexion finalement, où se mêlent philosophes, théologiens, pour parler du politique.
Oui, parler du politique en tant que théologien. Il ne s'agit pas de parler du politique en tant que responsable politique, associatif ou même en tant que philosophe. Il s'agissait pour moi de me demander ce que le théologien pouvait avoir de spécifique à dire sur le politique.
Vous avez le sentiment que la théologie, justement, nous aide à penser le politique?
Incontestablement, et le nombre de pages bibliques sur la question politique m'autorise à aborder le champ politique. C'est pas du tout un thème qui devrait être exclu du champ. Par contre, je pense qu'il y a de mauvaises manières de traiter le politique quand on est théologien. Et je pense qu'il y a notamment deux écueils. Le premier écueil, ça serait de considérer que le théologien est nécessairement comme un prophète qui va critiquer le politique et qui va toujours lui remettre la justice sociale devant le nez. Au fond, le contestataire, qui va prendre le contre-pied du pouvoir. Finalement, être anticonformiste, c'est un conformisme. L'autre écueil, c'est, et ça s'est vu dans le christianisme, c'est la légitimation du pouvoir politique. Et on est là pour sacrer le roi, on est là pour
adouber.
Et ça adouver.
Se voit encore.
Il manquerait plus qu'il y ait un pasteur pour l'installation du président des États-Unis d'Amérique. Vous voyez, enfin bon, la catastrophe, quoi. Bon. Et puis, il y a un juste milieu, c'est le théologien qui réfléchit aux conditions de l'exercice politique. Non pas d'un point de vue partisan, mais comment on fait société et comment on organise la vie publique, le politique, avec la dimension de la pluralité. Et au fond, la théologie, qui prend en son sein différentes couches rédactionnelles, différentes sensibilités, différents mouvements, différentes orientations, est capable d'assumer la pluralité pour une société elle-même plurielle.
Vous m'évoquiez d'ailleurs la séparation des pouvoirs que l'on retrouve là dans le texte.
C'est pas du tout Montesquieu qui a inventé ça, on le trouve dans le livre du Deutéronome. Dans le livre du Deutéronome, que doit faire le roi ? Il doit lire la loi qu'on lui a fournie. Donc, ce n'est pas le législateur, ce n'est pas non plus le judiciaire, puisqu'il y a un pouvoir judiciaire qui est séparé. Et donc, il y a aussi l'opposition, alors c'est pas les journalistes, mais c'est les prophètes qui sont également institués. Donc, le roi est vraiment ramené à sa tâche de pouvoir exécutif, ce qui est en fait extrêmement moderne. La séparation des pouvoirs, on l'a dans le livre du Deutéronome.
Et la question de la démocratie que vous évoquiez ?
La question de la démocratie n'est pas présente au sens où on aurait un suffrage universel, ouais, direct, ouais, etc. Même si, en fait, dans le Proche-Orient ancien, on se rend compte qu'il y avait des intuitions et des élans beaucoup plus démocratiques qu'on imagine. C'était pas toujours du népotisme, c'était pas toujours de la filiation royale. Mais en tous les cas, il y a les prémices de la démocratie, aussi par la question justement de l'opposition, et puis surtout par la responsabilité individuelle qui va émerger dans cette rédaction biblique et qui va devenir le sommet en fait de la pensée biblique.
En conclusion, vous observez que la liberté nous ramène d'abord à une question individuelle. Et ça, il faut en parler aussi. Et vous présentez deux besoins pour y arriver, instituer l'opposition et éduquer la conscience individuelle.
Oui, alors l'opposition, finalement, on la voit avec le personnage Shimei. Et David, qui insiste vraiment pour sauver Shimei, montre bien qu'il faut instituer l'opposition qui est en fait porteuse de l'altérité. Et ce dont notre société plurielle a besoin, c'est d'altérité. Et puis pour la question de la responsabilité individuelle, vous voyez, dans le livre du Deutéronome, il y a beaucoup de passages en vous, et puis il y a des passages en tu. Et au fond, ça institue l'individu. Et la responsabilité individuelle, elle émerge aussi avec le prophète Ézéchiel, avec le prophète Jérémie, qui vont dire, c'est pas parce que les parents ont mangé des raisins verts que vous devez avoir les dents agacées. Chacun sera responsable de ce qu'il a fait. Et ce qui apparaît en fait à la lecture de cette rédaction biblique, c'est que ces textes ont été écrits pour instituer des lecteurs capables d'aiguiser leur conscience et capables de pouvoir faire face à ce qui arrive. Et je discute notamment avec John Locke et avec Jean Calvin, qui disent que en dernière instance, c'est l'individu qui est responsable et pas le peuple. Au fond, le peuple, il vaut pour un. Le peuple, c'est une masse informe qui a tendance à tout broyer. Alors que garder dans le collectif toutes ces individualités, c'est la possibilité de multiplier les expériences et de ne rien laisser passer à travers le tamis des expériences. Et Jean Calvin, dont on dit que c'était une espèce de tyran, ça c'est un épouvantail qu'on a essayé de créer, alors que Calvin était formidable sur le plan politique. Il termine son institution de la religion chrétienne en instituant le devoir de désobéissance quand le pouvoir politique n'est plus là pour assurer la liberté des individus. C'est Jean Calvin qui institue le devoir de résistance et de désobéissance civile.
Très intéressant. C'est un livre très fourni. Combien de pages
Ma thèse faisait 500 pages.
Ah oui.
Alors j'ai réduit.
Réduit quand même.
Oui.
Mais en même temps, très abordable par toute personne qui s'intéresse à ces questions. Encore une fois, ce sont de très vieux récits. On se base sur une histoire vraiment très ancienne, mais les références à l'actualité, aux enjeux du moment sont extrêmement prégnantes là.
Cela s'explique par le fait que les rédacteurs avaient vraiment en tête la question de l'universel. Et la question de l'universel, c'est savoir ce qui est bon pour nous et pour l'autre, mais savoir aussi ce qui est bon maintenant et demain. Et leur réflexion est valable pour nous aujourd'hui parce que finalement, ils ont cherché à développer quelque chose qui n'était pas circonstanciel, qui n'était pas simplement conditionné par les événements du moment. C'est pour ça que ça a été réécrit. Vous voyez, on aurait tout simplement pu dire, bon, bah très bien, on jette ce qui était mauvais et puis on le réécrit. Non, on utilise et on corrige. Et puis, par exemple, il y a quelque chose de très contemporain, c'est Dieu. Dieu, c'est extrêmement moderne. Dieu, c'est ce que le philosophe John Rawls va finalement élaborer de son côté en parlant du voile d'ignorance. Comment faire pour que la société soit juste ? Il faut que ceux qui vont élaborer la constitution de la société ne sachent pas la place qu'ils vont occuper plus tard, sinon ils vont faire une constitution qui les avantage. Et donc il faut un voile d'ignorance, il ne faut pas savoir quelle est la fonction qu'on occupera. Dieu désigne cela en disant que Dieu est du côté de la veuve et de l'orphelin et de l'étranger, on dit que c'est le plus fragile de la société qui doit être dans notre axe de réflexion. Et donc, penser une société pour le plus fragile, c'est être certain qu'elle sera juste. Et Dieu, c'est ce qui rend notre capacité à être juste quand on élabore une société.
Eh bien, merci beaucoup, Pasteur James Woody. On invite les auditeurs à aller découvrir ce livre, dont je rappelle le titre, « La liberté, les premiers rois d'Israël » aux éditions du Cerf, par le pasteur James Woody. Une très courte page culturelle pour vous parler d'un film sorti mercredi dernier qui fait écho aussi à tout ça d'une certaine façon. Il était en sélection officielle dans la section Un certain regard au Festival de Cannes, où il a reçu d'ailleurs le prix de la mise en scène. Il fut aussi présenté au dernier festival du film américain de Deauville. C'est un western pas comme les autres, sur fond de guerre de sécession, Les Damnés, réalisé par Roberto Minervini. Nous sommes en hiver 1862, l'armée des États-Unis envoie à l'ouest une compagnie de volontaires pour effectuer une patrouille dans des régions inexplorées. Alors que leur mission change de cap, ils questionnent alors le sens de leur engagement. C'est un film esthétiquement très très beau, magnifique, où les dialogues sont en même temps essentiels, comme l'évoque d'ailleurs le synopsis. C'est la question du sens qui est au cœur de la réflexion proposée, mais où la foi chrétienne est aussi sérieusement interrogée. La lutte entre le bien et le mal, et derrière tout ça aussi la folie de la guerre. À ce propos, je vous invite à écouter le réalisateur Roberto Minervini en dire un court mot.
Le film est clairement anti-guerre. Mais il est aussi contre la façon dont on montre la guerre dans un certain cinéma très masculin, où la guerre est parfois une seconde chance, pour se racheter personnellement ou encore pour entrer dans l'histoire comme un héros. Je ne peux pas adhérer à cette idée que la guerre puisse être quelque chose de distrayant. La guerre, ça tue des gens.
Les Damnés en salle depuis mercredi. Et notez aussi sur vos agendas que ce film sera projeté également le lundi 10 mars à 19h30 au Nouvel Odéon à Paris, dans le cadre des ciné-débats de l'Alliance biblique française, débat que j'animerai avec plusieurs invités pour réagir à la suite du film. Vous pouvez réserver vos places sur le site de l'Alliance biblique. Pour nous séparer ce matin, la liberté revient encore une fois avec ce vieux spiritual, Oh Freedom, par John Littleton.
Oh freedom, oh freedom, oh freedom over me and before I'd be a slave, I'd be buried in my grave and go to my Lord and be free.
And be free.
No more running. No more running. No more running over me.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération Protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost, et avec ce matin Antoine Voissa à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org, à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2, ce matin, 10h, dans Présence Protestante, c'est un documentaire de Damien Boyer intitulé « La foi qui désarme ». Et ici sur Culture, ce sont dans quelques instants vos informations, suivies de Talmudique, présentées par Marc-Alain Wacknin et moi. Je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun.
I'd be buried in my grave and go home to my Lord and be free.
And be free. I'd be buried in my grave and go
Free. Well, yeah.